Mais je sais pas, je pense que ça s'est juste développé. Tu sais, je pense que quand tu chantes pas beaucoup, tu fais juste ouvrir la bouche, puis tu laisses sortir les affaires en sachant pas trop ce que tu fais. Puis là, quand tu fais des shows, puis que t'en fais comme 3-4 d'affilée, faut comme que. Puis que t'as jamais fait ça de ta vie, faut que tu trouves. C'est quoi la zone où t'es confortable pour chanter, que tu te brises pas la voix, que tu te fais pas mal à. Que. Fait que. Je sais pas, je pense que.
Je fais juste un signe de.
OK. Mais de micro. Je trouve que la job de chanteur est souvent sous-estimée dans des groupes ou dans des artistes. Comment je gratte la guitare, je compose des chansons, ben je vais les chanter.
Ouais.
OK, fine, parfait. T'as la première voix qui sort quand tu t'amuses à chanter.
Ouais.
Mais le step de OK, je vais prendre ma voix, je vais la travailler. Je vais l'amener dans une zone où je suis confortable, où elle ne sonne pas comme toutes les autres voix, où elle peut se distinguer. C'est un travail qui, je trouve, n'est pas assez fait.
Ben, en même temps, c'est comme, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'était super inconscient. Parce que j'ai pas de grande technologie. À un moment, j'étais allé suivre là, quelques cours avec une dame là, qui donnait des cours de chant. Puis elle m'a beaucoup aidé, comme plus des affaires de respiration. Puis. Mais je sais pas, on dirait que j'ai jamais trop intellectualisé ça parce que je trouve ça. Ça devient comme on devient rapidement self-conscious puis on veut pas comme on veut pas se juger. T'sais, j'ai rencontré quand même beaucoup de gens qui ont de la misère avec leur voix. Moi j'essaie d'être dans un lâcher prise, je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas là, quand je me réécoute, mais comme de dealer avec le fait que ben j'ai fait ça, ça sonne comme ça, puis c'est rendu ça maintenant, puis je sais pas, mais t'as raison, je pense qu'il y a
quand ça vient d'instinct, c'est parfait. Là.
Ouais,
c'est
l'idéal, sauf en fait. Que c'est vrai que le premier instinct, c'est proche de notre voix parlée, c'est simple, la mélodie est plus linéaire, il y a comme... c'est un travail... Tu sais, moi, c'est un travail que je suis en train de travailler tranquillement sur mon prochain disque, puis c'est comme un défi que je me dis, je veux faire des meilleures mélodies, tu sais, parce que moi, si je suis seul avec une guitare puis à la voix, je vais être assez monocorde ultimement dans ce que je vais trouver. Mais j'essaie de développer une mélodie genre au piano, puis après ça, me dire « OK, ça va être ma mélodie de voix. » Fait que j'essaie de chanter ça, fait que sortir de ce que je connais un peu, puis ça fait écrire d'autres choses, je pense, autrement.
Hey, bonjour. Comme d'habitude, un peu comme, je pense, c'est bien comme le dernier épisode avec Mélissa Maya, on a décidé de commencer ça par une conversation par rapport qui commence.
Ça va donner ta marque de commerce.
c'est déjà rendu la marque de commerce parce qu'après deux épisodes, c'est ça. Donc, c'est 100% des nouveaux épisodes. Donc, ça va être on jase, puis là, tout d'un coup, le jingle finit, puis on jase. Le dernier épisode, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Olivier Robillard-Lavaux.
Le dernier qu'on a fait ensemble ou
qu'on a fait ensemble.
Ouais, ben je savais pas si tu allais les sortir dans quel ordre là. Fait que...
Ah, ils vont peut-être être mélangés, mais ça fait partie de la.
Le dernier
de la
qu'on
beauté,
a fait
on dirait
avec, avec Mélissa Maya Falkenberg.
Ils ont le droit de connaître la chronologie des choses. Puis on a commencé en parlant de musique de bike.
Là,
on a commencé par une discussion dont je ne faisais pas partie, mais j'étais vraiment intéressé de travail sur la voix, en fait. Donc, façonner la voix, faire un choix de grain, hein, choisir son grain. Et justement, vous avez entendu pendant la discussion, un gars qui a un bon grain, vraiment, là, Antoine Corriveau. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Grains les plus distinctifs. Hey, tu le reconnais tout de suite quand il chante.
Oui, puis la semaine passée, j'avais donné un paquet de petits adjectifs à Mélissa Maya. Donc là, j'en ai pensé à quelques-uns pour Antoine. Yes. Puis c'était, il est grisant. Et foisonnant. Ça, c'est. Je trouve que ça va super bien avec.
Un auteur.
Donc, ben oui, et aussi, il look auteur aussi. Antoine, plein d'affaires que je veux jaser avec toi. Premièrement, bienvenue à Sortie Phono. Donc,
merci.
Nous allons jaser disque, mais on va quand même jaser un petit peu avant de commencer de ce qui se passe vraiment très, très tout récemment. Je ne sais pas quand le podcast va sortir. Ça va être moins récemment, mais ça va être quand même assez récent. Tes deux nouvelles tunes qui sont sorties, qui roulent en boucle à la maison. Comment ça fait qu'ils roulent en boucle? Ben, je les écoute sur Bandcamp pour le moment, mais peut-être pour toujours, parce que c'est toi qui vas me dire, est-ce que ça va faire partie d'un nouveau disque, ces deux nouvelles pièces?
Non, c'est ça. C'est une face A, une face B.
C'est comme... un 7 pouces.
Ouais, c'est un 7 pouces.
Et ça donne le goût de le faire. Hey, on sent-tu projet particulier pour faire ça? Le 7 pouces de ça? t'en vends un paquet dans tes shows, on en fait 50 ou 100.
J'aime ça, j'aime ça.
C'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui.
Pour me présenter un contrat.
Piège. Hey, mais les deux pièces, ouais, c'est ça. Parle-nous donc un petit peu de ces deux pièces-là, comment que ça s'est monté, puis tout ça avec Yuki, puis ta gang habituelle.
En fait, c'est parce que c'est comme un projet qui était un peu... Yuki, il y a quelques années, elle cherchait du monde pour faire des chansons d'une autre manière. Un peu. Elle disait qu'elle voulait faire des tunes un peu mollo.
Ça, c'était en même temps qu'elle faisait Yocto?
Ah, c'est il y a longtemps. Là. On a commencé ça genre en 2019, là, à peu près. Là. Fait que moi, j'ai juste envoyé des sur mon téléphone, j'ai plein de petits bouts de riffs de guitare que je tape des fois, puis j'ai plein de bouts de textes aussi. Puis j'ai juste envoyé plein d'affaires que j'étais comme ça, j'aime ça, mais je ne l'ai pas utilisé, je vois pas encore comment je l'utiliserais. Fait que... Puis elle mettait des affaires ensemble. Fait qu'elle prenait comme ce bout de texte-là, elle mettait sur ce riff de guitare-là. Puis elle a comme monté une ou deux affaires comme ça. Puis là, on s'est retrouvés en studio ensemble. On a comme monté des chansons. Le but, c'était comme de faire des chansons qu'elle elle chanterait. Moi, j'avais des versions. Puis là, Matt Vesio, un drummer, était venu drummer sur les chansons. Puis on a écouté ça. C'était comme pas notre priorité jamais, là, ce projet-là. On a fait genre 3 sessions en 2 ans et demi. Fait qu'à un moment donné, on a comme mis ça de côté. Justement, elle avait des nouveaux projets, puis elle s'est concentrée là-dessus. Puis moi, j'avais juste les chansons, puis je continuais à les écouter de temps en temps. Je les aimais, puis c'est que là, bon, en tout cas, tu sais, mon album, je travaille sur un disque, mais là, c'est plus long que prévu un peu. On l'a repoussé. Ma gérante, elle m'a dit, t'as pas des tunes là, qui traînent? Puis là, je me suis dit, peut-être que je pourrais essayer de reprendre ces chansons-là. Fait que je les ai repris, j'ai essayé des... Tu sais, j'ai réécrit un peu, j'ai retravaillé, mais j'ai pris ultimement ces mélodies. C'est des mélodies de Yuki, puis elle est revenue chanter, dans le fond, parce que je trouve ça cool.
Situer. Yuki Bertium, c'est quoi?
Bertium Tremblay.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Elle chante dans Jésus les filles, entre autres, puis dans Yocto.
Ouais.
Elle chante-tu dans d'autres projets aussi,
peut-être? Elle danse avec les genoux aussi, Hidalgue, que je sais qu'elle a ce projet-là. C'est ça, tu sais, fait que... c'est vraiment partie de elle, beaucoup, en fait, les chansons, puis... c'est ça, je trouvais ça le fun de les sortir à un moment donné, de faire quelque chose avec. Puis on a décidé de sortir ça. Puis c'est un essai aussi, là, je pense. On est comme un. Moi, personnellement, ça me fait bizarre de sortir 2 tunes puis que ça soit pas justement relié à un disque. Je suis comme. Je suis pas habitué de travailler sur un format court comme ça. C'est pas.
C'est votre nouvelle liberté des plateformes, faire ça.
Ouais, mais en même temps, je suis content de l'avoir faite, mais c'est pas... Quand des affaires de même, ça, je m'en calisse tout le temps un peu. C'est pas une affaire qui m'appelle tant que ça, les singles dans la vie. Là, je suis le meilleur vendeur pour mon propre projet en ce moment.
Mais tu vois, je suis pas super fan justement de singles comme ça, mais je suis un gros fan de EP, personnellement. Ouais. J'ai sans posséder parce que ça vient tout le temps sur des 10 pouces. À part ce que je fais sur projet particulier.
Moi, je trouve ça beau,
10
pouces.
Mais
c'est pas laid. Un 7 pouces, c'est laid. Un 10 pouces, c'est quand même beau.
Ah ouais? Non, ça, t'es
c'est charmant.
T'es juste pour
c'est
la grandeur.
Attachant.
Non, moi, c'est le 16 du milieu. C'est l'enfant du milieu que j'aime pas. Je sais pas. C'est vraiment... je sais pas. Mais là, je sais pas où je m'en allais pas en tout avec ça, là, par exemple.
T'allais revenir que tu voulais sûrement le lancer.
Mais pas les singles.
Ouais, c'est ça. Je trouvais, justement, qu'il y a 2 tonnes, je trouve ça fabuleux.
Ben, c'est ça, en fait.
Sécurité avait fait ça aussi.
Je pense que sortir juste 1 tonne, j'aurais trouvé ça plate. Là, au moins, il y avait comme quelque chose... Je pouvais, même si c'est un micro-univers, je pouvais comme développer quelque chose, penser à qu'est-ce que ces deux chansons-là peuvent dire ensemble, développer comme un truc sur 2 chansons, même si j'aime mieux développer un truc fondamentalement sur 10-12 tunes.
Ouais, absolument.
Là, il y avait de quoi au moins qui me permettait, tu sais, je pense. Ouais.
Je sors un peu là, de la musique pour parler de l'esthétisme autour, parce que le vidéoclip, puis la pochette que tu as mis, la photo promo qui est sortie en même temps que les 2 tonnes, c'est très coloré. Tu es sur un fond rose, t'as une espèce de, tu portes souvent une espèce de gros foulard de fourrure, là, c'est devenu plein de boules de couleurs. Il y a quelque chose de nettement plus coloré dans la présentation du produit qui clash, selon moi, avec tout ce que le côté sombre d'Antoine Carreau, torturé, qu'on a souvent vu dans l'esthétisme des albums qui sortaient. C'est voulu, ça? Tu dis, cette fois-ci, je vais vous en mettre plein les couleurs, c'est quoi?
Je sais pas. Je pense que pour de vrai, là, tu sais, c'est drôle, le côté sombre et torturé d'Antoine Corriveau, genre, on dirait que c'est quelque chose à quoi tout le monde s'est beaucoup plus identifié que moi. Tu sais, quand je regarde avec du recul, mettons, je pense que mon disque, cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s'arrêter avec l'accident d'avion. Des fois, je retombe sur ces affaires, je suis comme « Wow, c'était intense, ça, là! » Tu sais, ça, c'était très dark. Ça, c'était comme... c'était, puis, tu sais, je pense que c'est un disque comme ça. Je pense que j'écoute beaucoup de musique comme ça. Mais pour moi, tu sais, on dirait que j'ai jamais réalisé que je projetais ça nécessairement à cette époque-là. Ou en tout cas, tu sais, je suis comme... je pense que... Puis aussi, les artistes qui, moi, m'intéressent, c'est des artistes aussi qui ont souvent été capables de se permettre une chose et son contraire, là, tu sais. Fait que je suis comme... c'est même pas si conscient, je pense, pour de vrai, cette espèce de... Bon, je savais qu'on allait faire des photos, puis je me disais, avec Mathilde Corbeil qui a fait la DA, je me disais, essayons d'avoir des idées. C'est elle qui a eu des idées, bon, d'avoir des cerises, puis après, tu sais, genre, on a du coke, puis des Advil, puis tu sais, ça, c'est vraiment niaiseux, là, ça part de, comme... le podcast de Dominique Tardif, Deviens-tu ce que t'as voulu, qui a reçu Christiane Charette, puis en est Christiane Charette dit que quand ça file pas des Advil puis du coke, ça fait du bien. Puis ça m'a tellement fait rire, puis elle puis moi, on s'est écrit un peu sur Instagram, puis tu sais, je l'aime beaucoup, puis j'étais comme, j'ai eu l'idée de mettre ça un peu comme en clin d'œil à cette affaire-là, mais c'est super inside, là, tu sais, il y a juste moi qui le sais, mais...
Ouais, mais c'est un maintenant, classique, elle l'a dit une couple de fois, ça, qu'elle
ah,
aime
oui,
ça,
hein?
Ouais.
Okay.
Parce que moi, je l'ai entendu à soirée, t'es encore jeune, okay. Donc aussi, qu'elle avait dit, j'étais la même affaire.
Mais c'est ça, puis tu sais, moi et Mathilde, on est allés dans une friperie, c'est comme, tu sais, quand tu décides que t'as trouvé deux, trois verres transparents, verres fluo, une chaise rose, puis là, tu fais comme, hey, ça, c'est cool. Puis là, on dirait que tout est possible dans une friperie, puis le trois quarts de ce qu'il y a dans une friperie, soudainement, devient vraiment intéressant. Fait que,
puis ça vient aussi sûrement d'un désir de ne pas se répéter, là, je veux dire.
Complètement.
On t'a jamais vu dans plein de couleurs, puis ce genre de design-là. Oui. Ben, on s'amuse, puis on fait quelque chose de nouveau. Là,
complètement. Puis tu sais, après ça, c'est ça. Moi, je pense que ça fitait avec les chansons. Qui avait de quoi de
un peu plus rythmé,
un peu plus pop.
Ouais.
Ben c'est justement, on parlait au début, on parlait de mélodie, puis du travail sur quand on écrit, puis qu'on essaie de... C'est ça aussi, moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai écrit les textes, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait la mélodie, ultimement. C'est Yuki qui a trouvé ces mélodies-là. Puis je me souviens que moi, j'ai fait ça avec elle, puis j'étais comme, OK, cool. Puis après ça, quand j'ai repris le texte, je l'ai retweaké un peu, puis là, j'ai fait ma première track de voix, le refrain de La panique est une flash. J'étais comme, oh Chris, ça prend du souffle, puis OK, c'est quelque chose, une mélodie de même, tu sais, mais je m'en étais pas rendu compte parce que je le chantais pas, puis je le faisais pas.
Le pacing qui est pas le même que quand toi, tu sais, tu chantes, quand tu chantes avec quelqu'un d'autre, ça, c'est quand même popé, puis le monde qui chante pas, on dirait ça, il pense jamais au fait de les respirations, puis les longueurs d'habitude de phrases que tu prends, des fois juste des petites respirations pour la fin d'une phrase, puis tout, mais tu as une espèce de flow, peu importe que tu fasses du hip-hop ou pas, tu as un flow, tu sais, puis ton flow, il n'est pas pareil que celui de quelqu'un d'autre, hein, donc c'est quand même drôle.
Ouais, puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert vraiment beaucoup dans les dernières années, beaucoup en faisant Pissenlit, mon dernier disque. La subtilité du phrasé, de comment tu... Parce que c'était la première fois que j'étais tout seul en studio, dans mon studio. J'enregistrais un peu en même temps que j'écrivais. Tu sais, t'enregistres une phrase, puis Chris, il y a une syllabe qui manque, il y a de quoi qui est moins bon dans le flow du truc. Ben là, tu réécris ta phrase, puis là, tu retournes, puis tu le fais comme 3-4 fois jusqu'à temps que tu trouves la bonne affaire pour livrer le truc. C'est quand même un... Puis c'est juste, tu sais, tu parles de hip-hop, c'est ça, moi, qui m'impressionne beaucoup, ultimement, ce travail-là, que t'écoutes un disque de hip-hop, puis ça a l'air de couler de source, mais hey, c'est tough, pour vrai, là.
Oui,
c'est vraiment de la job, là, tu sais, puis j'en ai une couple de tunes avec des textes plus un peu parlés ou qu'il y a beaucoup, beaucoup de mots en peu de temps, puis c'est comme... Mais c'est vraiment excitant quand tu trouves la bonne manière de découper ton mot pour que ça tombe à la bonne place avec la musique. Il y a quelque chose de... Ouais, vraiment puissant, je trouve, quand tu mets le doigt, c'est la bonne affaire.
Là, tu parles de pissenlit. Il y a une question que j'ai envie de te poser depuis longtemps.
Vas-y, je t'écoute.
Là, les maladresses. Une minute coque. C'est sérieux, ça?
Ben, c'est 2 minutes, là.
C'est vrai qu'elle aurait dû faire plus que le double.
C'est un banger. Tu aurais pu rajouter un petit... Moi, à chaque fois que je l'écoute, je fais comme, j'en veux 3 minutes de cette tune-là. On dirait que c'est le banger. Puis, si je peux... c'est vraiment, en tout cas, moi, pour moi, de l'album, la tune qui reste, même si j'aime mieux quelqu'un, mais c'est les deux tunes que j'aime beaucoup. En fait, je trippe, c'est souvent, là, j'écoute les quatre premières quand que. Puis c'est vraiment là que je trippe à fond, moi, mes quatre tunes. Albanie, qui est comme super, la 4. C'est-tu la 4? Il me semble que c'est la 4.
Je pense que oui.
Donc, puis, ouais, à force de l'écouter sur un 10, moi, je connais tout le temps. C'est plus l'ordre.
Non, mais je comprends, puis je trouve ça drôle que tu dises ça, parce que j'ai souvent cette réflexion-là de tous ces disques dont on connaît, dont on écoute inévitablement plus souvent le début, parce qu'il y a tout le temps un moment où tu mets un disque, puis là, faut que tu t'en ailles. Puis ça, je trouve ça hallucinant. Quand je pense à ça, ça me freak out bien raide, parce que je me dis, c'est fou, parce qu'on fait un disque de 40, 50 minutes, puis. Mais par la force des choses, les débuts vont tout le temps être plus écoutés, puis je trouve ça.
En fait,
ça
moi,
comme...
je vais te dire, pas chez nous. Tu sais pourquoi? Non. Moi, j'écoute un disque, puis la façon qu'ils sont placés, attends une seconde. Mes disques qui sont placés comme ça à l'extérieur pour que je sois capable, là, les gens le voient pas, c'est super radiophonique. Là, mais...
je vais vous le décrire, là, il sort un vinyle de sa pochette.
J'ai une espèce de pochette style Mofaire, là, c'est pas Mofaire, mais ça ressemble. Là. Puis on voit le disque au travers, puis il y a une face. Donc quand je range le disque, puis c'est un disque j'écoute pas super souvent, ou que j'en écoute juste une moitié, je le range dans l'autre sens, donc je passe souvent
par
une face.
La prochaine fois, tu pars de l'autre
donc,
face.
En fait, j'écoute presque aussi souvent la toune 1 que la toune 6 ou 7, disons. Donc, ceux que j'écoute moins, c'est justement les 5, 6 ou les 9, 10, 11, 12. Je pense tout, il y en a 12 sur Pissenlit.
Il y en a 13, je pense.
Il y en a 13, bon. Donc, c'est ça. Donc, les fins de face sont moins chanceuses avec moi parce que. Puis je me dis tout le temps, fuck, qu'on écoute tout le temps side A en commençant. Je fais comme, un moment donné, on n'écoute jamais le disque au complet. Donc là, il y en a plein. Je suis comme, OK, lui, je suis rendu à B. Donc, tu sais, je le fais pas.
Ça,
des fois, je
bon.
Le fais pour niaiser, mais il y en a des disques ou un bon disque. J'ai écouté à moitié, tu sais, disons un disque de jazz. Je suis comme là, je réécouterai pas le début la prochaine fois. Je le place de ce sens-là.
Ouais.
C'est plus souvent pour le jazz que je fais ça, justement.
Ah, j'aime ça.
Mais ouais, les débuts de face. Hein. Pour ceux qui avaient des CD, ça, c'était pas winner. Donc, tu écoutais tout le temps le début puis pas la fin. Mais avec les vinyles, tandis que tu as deux côtés.
Mais en même temps, je pense que justement, le CD. Souffrait moins de tout ça. Il y avait quelque chose dans ce format-là qui était c'était
ouais, on
tout
mettait
tout
le temps sur repeat. En plus, on respectait pas le pacing. Après un bout, pour être moins tanné du même disque, moi, quand je sentais l'écœurite arriver, tu sais, quand t'aimes vraiment une toune, tu te la conserves. Si tu te mets à trop triper sur une toune, faut pas que tu l'écoutes un paquet de fois parce que tu vas te tanner. Puis
les disques au complet qui sont brûlés, que je suis plus capable d'écouter.
Donc là,
Comme quoi?
Rêver mieux de Daniel Bélanger.
Ah ouais, hein?
Je l'ai trop écouté, puis ça joue tellement tout le temps à la radio. Je préfère son deuxième rendu. Maintenant, j'écoute plus Rêver mieux.
C'est comme quand t'attends la rue principale.
Quatre saisons dans le désordre. C'est encore pas si pire.
Ah ouais, moi, je suis comme, on dirait, j'aime, tu sais, toutes les tunes. C'est le premier coloc, je le chante au complet du début à la fin, là, mais je suis comme, ah, c'était pas le meilleur tune, pareil. Là. C'était juste, tu sais, c'est une petite toune facile à passer, tu sais, mais il y a tellement de bonnes tounes, tu sais, là-dessus. Là, que... ouais, il y en a, je pense qu'ils ont. Tu sais, justement, le volume du vent, j'ai pas réussi à me tanner encore. Puis je l'ai écouté, hein, c'est sûr. 200 fois cet album-là. Mais il y a quelque chose qui fait que je me tanne pas. Il y a rien. On peut pas se tanner. Avec tout ça, Oli a apporté quelques disques.
Ouais,
là,
on va commencer par Antoine. On commence par Antoine. Là. Parle-nous de disques que t'aimes.
Le disque que j'aime.
Pour ça qu'il est là, l'invité.
Ouais, parle-nous de disques. D'abord, on va commencer par ça. Comment t'es arrivé sur le média? Hein? Comment t'as commencé à triper sa petite rondelle?
Ben, c'est ça que quand j'y réfléchissais, j'étais comme j'ai pensé au Velvet Underground parce que c'est j'ai acheté l'album Velvet Underground éponyme. C'est la première fois que j'ai acheté un disque vinyle, puis j'avais pas de table tournante, puis ça a pris vraiment des années avant que j'en aie une. J'étais comme chez le disquaire, puis je l'ai juste vraiment. J'ai eu un appel. C'est comme si je savais qu'un jour j'allais. Un jour je vais m'en acheter des. T'sais, c'était comme une époque aussi, là, je sais pas, autour de 2000. 6 peut-être, là, le retour du vinyle, c'était pas tout à fait ça encore.
Ça, s'en venait,
là, ça commençait. Moi, j'étais à Trois-Rivières dans le temps. Fait que j'ai un
disqueur
qui s'appelait le Colimaçon.
Le Colimaçon. En plein ça.
Qui n'existe plus aujourd'hui, mais...
Il y avait des films et tout, là.
Oui, ben c'est ça.
J'étais là une couple de fois.
Ouais. Puis je me suis comme dit... je sortais avec une fille dans ce temps-là, puis là, je disais, j'ai le goût d'acheter le vinyle, mais ça n'a pas rapport, j'ai pas de table tournante. Puis elle était comme, non, mais c'est une bonne idée. Puis c'est elle qui m'avait fait découvrir le Velvet Underground. Puis fait que j'ai fini par l'acheter. Puis ça a été comme, je l'ai eu, je l'ai traîné pendant une couple d'années jusqu'à temps de. Pour vrai, là, ça a pris facilement 5 ans avant que je m'achète une table. Peut-être en 2011,
2012. Est-ce que tu avais amassé un paquet de galettes?
Non, je pense que j'en avais acheté 2-3 autres peut-être, mais je me disais comme que c'était niaiseux là, parce que j'avais pas l'outil pour les faire jouer.
J'ai vécu la même chose à peu près à la même époque, mais c'était peut-être 2004-2005 avant le gros retour, mais déjà on sentait là, que ça s'en venait. Moi, mon intérêt, c'était d'acheter des vieux disques de l'époque.
Ouais.
Justement, le premier Velvet, ça faisait partie, le premier Stooges aussi. Des disques de cette période-là, je me disais, ah, crime, j'aimerais ça les avoir en vinyle, comme c'est sorti à l'époque.
Ouais.
Puis c'est comme ça qu'après avoir acheté ces deux disques-là aussi, j'étais allé acheter une table tournante, une petite Stanton à 100$ sur Mogodio. Mais même chose, pour écouter des vieux disques de cette époque-là.
Mais c'est ça, c'est comme s'il y a comme quelque chose de. Tu sais, on parlait du CD tantôt, puis je réfléchissais à ça dans les derniers jours en sachant que je m'en venais ici. Que, tu sais, l'idée que ces disques-là sont sortis à la base en vinyle, fait que tu es voulu en vinyle. Puis tu sais, comme pour moi, il y a des disques qui sont des CD. Tu sais, tantôt, tu me montrais ton casier de nostalgie de musique d'adolescence, mettons. Là.
Ouais.
Tu sais, puis.
Le grunge.
Avec du Pearl Jam, du Smashing Pumpkins,
et du Red Hot Chili Peppers.
Des gros coffrets, là, épais. Là, c'est la discographie complète de Pearl Jam de 1990 à 1995 dans deux gros coffrets.
Ah, même, je pense que c'est moins que ça. Ah oui, c'est 95. Ouais. Après ça, ils sont morts. Après ça, c'était de moins en moins clair ce qu'ils disaient. C'était déjà pas clair. Donc,
Vitalogy, c'est quelle année? C'est 96, c'est même pas dans le coffret.
Non. Là, c'est genre 10 puis versus.
Non, mais tu sais, moi, au début, quand j'ai commencé à m'acheter des vinyles, j'étais comme, OK, je commence à m'acheter des vinyles, mais là, j'ai pas le droit de m'acheter des disques que j'ai déjà en CD parce que là, c'est niaiseux de dépenser deux fois pour le même disque. Jusqu'à temps que tu fasses comme, mais Bob Dylan, c'est pas pareil. Bob Dylan, je peux. Bob Dylan, j'ai le droit. Puis là, finalement, tu traverses le miroir. Mais tu sais, fait que, comme de temps en temps, je me retrouve à faire un ménage parce que j'ai encore mes CD, tu sais, puis. On trouve à faire un ménage de OK, lesquels que je me suis racheté pour me débarrasser de certains CD. Puis je me ramasse avec une pile. Puis là, dans ma pile, il y a genre des CD que je me suis racheté en vinyle. Puis il y en a, puis là-dedans, il y en a que je me suis racheté en vinyle pour. Juste pour l'avoir. Là. Genre, l'album bleu de Weezer, mettons.
Ouais.
Que c'est, ça, c'est full nostalgie adolescence.
C'est clair.
Puis là, j'ai ma pile de CD, puis je m'en vais au Renaissance. Puis là, j'arrive au Renaissance, puis je vois l'album bleu de Weezer, puis je suis comme, non. Lui, il reste dans mon char, c'est un CD. C'est pas un vinyle. C'est un CD. Tu sais, c'est comme... Alors que après ça, une fois que je suis tombé dans l'achat de vinyle, ben là, tous les disques actuels, ça m'intéresse. Tu sais, c'est des vinyles. Puis après ça, tout est... C'est, sont rares, là, ces affaires-là. T'sais, c'est vraiment des affects de nostalgie d'adolescence que, tu sais, mon boîtier, il est pété puis que je me souviens de quand est-ce qu'il a pété puis pourquoi il a pété. Puis... Mais c'est pour ça que j'en ai encore un peu.
Faites-vous en pas, on a parlé à quelqu'un qui gardait ses boîtes de vinyle.
Les boîtes qu'on... de shipping, de livraison. Ouais. Là.
Ah!
Parce qu'il y avait un beau message dessus. Donc, tout le monde garde tout le monde a quelque chose d'affectif avec la musique, puis surtout sur ce médium-là en particulier, là, aussi, ouais. qui est plus gros, puis qu'on peut laisser une note dessus ou qu'on peut y pas avoir un petit peu de la vie. Tandis qu'on dirait que... Moi, en tout cas, sur un CD, on dirait que ton beau bout, il est comme enfermé d'un caisse... C'est une espèce de caisse de plastique lettre. À part justement quand il y avait les espèces de packs en carton, on dirait que je trouvais ça déjà plus joli, puis que le booklet dedans, ouais. Je pouvais enlever. Il me semble que moins qu'il y avait de plastique, plus que jamais CD, en fait. Là.
Ouais.
Donc, c'est ça qui est arrivé pas mal. À part de ça, nous autres, moi, j'ai quelques petites choses que j'ai reçues que j'ai envie de vous parler parce que j'ai hâte de mettre de la musique. Ça fait un petit bout de temps. Là. Je pense pas que ça arrive si souvent qu'on n'a pas de musique comme ça. Donc, je vais vous parler de quelques petites choses.
On va le dire, Antoine n'a pas amené ses disques.
Non. Attention. On va être clair. Antoine, j'ai dit juste, J'ai étudié à portée, je sais pas. Là. Peut-être j'ai juste dit pense à 10 disques. Je sais pas. Peut-être que moi.
Ouais, moi, je t'ai dit, je vais t'envoyer les titres. Non, 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 pas besoin, pas besoin.
Non, ça, les titres, je vais pas les voir à l'avance. Là.
Ça fait une surprise. Mais, puis, mais
ça
pas
a été
pensé.
Un autre genre de surprise.
J'aurais dû amener mes disques.
Mais Starley, Ben, quand il parle d'un disque que t'as dans ton mur en arrière de toi, là.
Il y en a sûrement quelques-uns. Ça,
là, je suis sûr que
là.
La banane du Velvet, tu l'as, là.
Oui, mais lui, il parlait de Velvet Underground, ça, c'est pas avant. Avec Nico, ça, c'est pas le
en
même
fait,
album.
En fait, non, le premier, c'est avec la banane, mais le si, deuxième, ça, le deuxième s'appelle juste Velvet Underground, quand même. L'autre, le premier, c'est
Velvet
genre,
and
Nico, là, ouais, c'est ça, exact. Mais celui que j'ai acheté, c'est avec la banane.
Ouais, ça, moi, quand tu as dit le premier Velvet dans ma tête, c'est
oui, 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 c'est ça. C'est lui que j'ai acheté parce que je le trouvais beau. Mais tu sais, s'il fallait que je mette une toune du Velvet, ça serait sur l'autre pareil parce que What Goes On, ça a été quand même un moment pour moi. Là, justement, j'étais comme en auto, puis ma blonde de l'époque a mis cette toune-là. Puis il y a l'espèce de solo super dissonant d'orgue puis de guitare que. Je pense que tu sais, j'étais un peu un calinours de la musique encore là, puis j'étais comme wow, ok, ça tu peux faire ça aussi en musique, puis ça, on dirait que ça j'avais encore jamais été exposé à quelque chose de même, puis ça m'a fait du bien.
Moi, justement, j'en profite pour jaser de mon premier disque puis de quelque chose, surtout pour ceux qui sont des tripeux de jazz. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent l'émission puis qu'ils sont assez tripeux de jazz. La compagnie Analog Production a recommencé à refaire toute la série Prestige. Vous pouvez vous trouver des originaux, mais ça coûte un prix de fou. Mais les rééditions sont vraiment super le fun. Ils respectent pas mal tout le packaging, pas mal original. Sur la plupart aussi, je pense dans ce cas-ci aussi, c'est la même chose. Là, j'ai Eric Dolphy, Far Cry avec Booker, Little. Puis, il n'y a pas aussi de barcode. T'sais, c'est vraiment original, c'est Tepan Jacket, donc c'est fait vraiment d'une belle qualité. Puis, c'est ça, il avait été discontinué il y a quand même un bout de temps. Puis, ça fait à peu près, je sais pas, je pense 2-3 mois, c'est remis en vente. Donc, ceux qui aiment ça, c'est disponible sur Acoustic Sounds. Donc, vous pouvez les retrouver. Puis sinon, chez vos disquaires. Moi, c'est Julien au Noise qui m'a vendu ça. Donc,
sont chanceux, les fans de jazz. Il y en a tellement là, des rééditions où on essaie de reproduire le packaging de l'époque, ouais. Mais de faire un beau vinyle qui sonne bien. Ouais. Déjà, souvent, les enregistrements de jazz, ça sonne bien aussi, là.
Mais je pense que
c'est vraiment le fun d'acheter du jazz en vinyle à cause de ça.
Ouais, puis tu sais vraiment, tu sais, la qualité de ton disque est tout le temps, tu sais, superbe, tu sais. Donc c'est vraiment haut de la moyenne. C'est sûr que vous allez être pogné pour sortir un 60$ de vos poches pour un disque, donc c'est assez fou. Mais sinon, tu sais, l'original, tu vas le payer 400-500$, puis si tu l'écoutes pour l'écouter, ben le ton va être aussi bon. Donc c'est tout fait avec les master tapes. Donc tu sais, ils ont rebaké ça, tu sais, je sais pas combien de temps ça va tenir encore là. Pour retravailler encore avec les tapes. Donc, sauter là-dessus. D'habitude, c'est dispo genre 2 mois, 3 mois. Puis après ça, c'est refini pour une couple d'années. Donc, ceux qui cherchaient ça sur les réseaux secondaires et que ça coûtait un prix de fou, bien, sachez que Prestige, série mono puis stéréo a été refaite. Donc, ça, c'est un gros, gros, gros plus en ce moment. Vous autres, jazz? Toi, jazz, hein?
Ouais, mais moi, j'y suis arrivé tard quand même un peu. J'avais un intérêt, une curiosité, mais je savais pas par où commencer. Puis pendant la pandémie, j'ai un ami que tu connais, je pense, Marc-André Landry.
Benquin.
Qui a starté un groupe d'écoute de musique. T'sais, vraiment au début de la pandémie, là, quand on était tous chez nous, puis c'était encore l'hiver, puis qu'on pouvait pas sortir.
Le groupe avec Gas.
Ouais, avec Gas, Simon Angel, puis Guillaume Bourque. Fait qu'on est 5. Puis le concept, c'est que, bon, là, on a slacké parce que nos vies ont toutes repris un peu plus intense, mais on le fait quand on peut. Mais à l'époque, au début, pendant la pandémie, c'était vraiment genre 2 fois par semaine. Un de nous choisissait 2 disques. Puis on a comme un groupe WhatsApp, puis là, on écoute. C'est comme, il y a quelqu'un qui choisit un disque. 1, 2, 3, go, on pèse tout supplément en même temps, puis on se parle, on s'écrit en même temps qu'on l'écoute.
Vous vous êtes ruiné. Marc-André, c'était fois, toutes les fois, le nombre de disques, c'est quand même, il faut que je m'achète ça. Là, j'ai écouté ça, il faut que j'achète
ça. Ben, t'sais,
pendant la pandémie, là, il s'achetait du disque.
Moi, ça m'a fait découvrir beaucoup de musique, ça m'a fait élargir ma palette beaucoup aussi. T'sais, ces quatre amis qui sont tous vraiment plus calés que moi, puis plus calés en vraiment en jazz, là, t'sais, qui connaissent le nom des contrebassistes puis des drummers qui jouent sur tel album, puis c'est ce que je fait que j'ai découvert plein d'affaires, puis ça, on dirait que ça c'est venu shaper aussi de plus en plus comme un, comme pas un désintérêt pour comme la chanson ou le, mais comme je suis devenu plus exigeant, je pense, t'sais, avec la musique que j'aime, puis que je commence à avoir de la misère à un nouvel artiste là, qui va faire des chansons un peu folk. Là. Le nombre de chances que je m'en crisse, c'est quand même élevé.
Le pourcentage est fort. Ouais, ça, je suis un peu d'accord avec vous autres là-dessus.
Et ça fait du bien de sortir de sa pas sa zone de confort, mais tu sais, quand on a écouté un style pendant bien des années, en sortir, puis « Hey, regarde, je vais aller m'intéresser au soul des années 70, au hip-hop des années 90, au jazz des années 50. »
Exact.
Ça fait du bien. On est facilement impressionnable parce que ça fait pas 10 ans qu'on écoute ce genre de musique-là. Fait que là, on tombe sur les classiques. Puis, tu sais, moi, le jazz, là, c'est une des sections de ma collection de disques qui grossit le plus. Mais j'achète juste des classiques. Le dernier, c'est Mahoning de Hart Blakey. J'avais pas ça. J'ai entendu ça. Puis, go, tu sais, c'est un classique, là. Les jazz au fil vont rire de moi parce que voir que tu viens de découvrir ça. Mais c'est ça. J'achète des.
Non, mais je comprends. Moi, j'ai vraiment
commencé.
J'achète
encore au stade de classique. J'ai
commencé comme ça aussi en achetant. Genre Kind of Blue, puis Sketches of Spain de Miles Davis, puis un Bill Evans ici, puis sauf que tu sais, comme moi, dans une de nos soirées, Simon a mis Get Up With It, ce disque-là de Miles Davis, que moi je connaissais Sweet Fuck All, puis qui est comme qui dure 2 heures, là, tu sais, puis qui est vraiment, puis moi je l'ai pas encore en vinyle.
Moi, j'ai jamais vu ce disque-là,
mais
ever.
C'est ça, c'est
j'en
comme
j'en ai quand même une popée de Miles, mais.
Puis c'est juste cette espèce de... Ben, puis je pense que dans certains classiques de Miles Davis, c'est ça que tu finis par catcher, que on n'est pas juste dans le jazz, on est dans beaucoup d'affaires, on est dans beaucoup de mélanges d'affaires, puis c'est un disque vraiment, tu sais, la première tune dure une demi-heure, genre, puis c'est quelque chose qui prend full son temps, puis c'est... Fait, puis tu sais, j'ai apprivoisé des affaires que... Bon, moi, le premier soir, moi, dans ces soirées-là, j'ai mis un disque de Giant Sand, mené par Howie Gelb, que moi, je suis un gros, gros fan de ce gars-là. Puis
on est dans le folk.
On est dans le folk, mais dans un espèce de folk un peu quand même...
C'est du bon, ça.
Ben, un peu, tu sais, qui tire dans plusieurs directions aussi, qui fait beaucoup de... Tu sais, moi, je me souviens, j'avais vu un... J'ai un peu découvert Howie Gelb comme ça dans une vidéo. Je sais plus trop, c'était comme un genre de, je sais pas, là, magazine, blog en Espagne. Je pense qu'ils mettaient 2 musiciens ensemble. Puis c'était Howie Gelb avec Steve Shelley de Sonic Youth. Puis ils font faire un truc ensemble. Puis là, il est là. Puis il est comme, ah, personne compte. Tout le monde est comme, il ne catch pas ce qu'il veut faire. Puis il dit, et moi, mes chansons sont tout le temps construites sur des erreurs. Puis il fait comme, tu vois qu'il est dans 3 processus différents. Puis à la fin, ça fait une toune. Puis c'est débile. Mais je comprends tout le monde en studio de ne pas catcher ce qu'il fait. Puis on écoute ça ce soir-là. Puis entre eux autres, les gars sont comme, hey, Thelonious Monk, hein, pareil, hein, ah, Monk, hein, c'est cute, le piano, moi, je le sais pas, je le connais pas, Monk,
pas
encore, à ce moment-là, puis après ça, tu comprends que le piano d'Howie Gelb, c'est Monk, puis là, fait que tu tombes là-dedans, puis tu découvres ces affaires-là, fait que c'est, j'aime bien, je pense qu'il y a un genre de meme, là, c'est une image, un panneau d'autoroute qui dit les gens qui te font découvrir de la nouvelle musique sont importants, tu sais, puis ça m'a quand même...
T'en as des bons. Anyway, Marc-André, pour le jazz, on s'entend, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, contrebassiste qui a terminé à McGill en jazz, donc ça vous en donne. Ça vous en dit pas mal sur le
gars. Je joue avec Antoine, je joue avec Mathieu Lebowski aussi. Il y a son projet.
Il est en garde partagée avec beaucoup de gens.
Ouais. Il joue bien. C'est un des... Tant qu'à moi, je pense que c'est un des meilleurs bassistes en ce moment à Montréal. Puis il est en demande, il travaille beaucoup. Puis ouais.
Il jouait, je l'ai vu avec toi dans ta première gig de clavieriste.
De clavieriste, c'est vrai, ouais. Ma première gig de clavieriste.
Ça, j'ai vu ça, avec Fantôme.
Avec Fantôme, un projet que j'ai réalisé, puis j'ai fait les claviers sur l'album. Puis là, Bobby, qui est le gars derrière ce projet-là, m'a demandé si je voulais les jouer au lancement. Fait que j'ai accepté, j'ai eu ma première gig de claviériste. Après le show, il y a des vieux monsieur qui sont venus me montrer des photos de leur setup de clavier dans leur sous-sol. en disant, bienvenue. Je claviériste moi aussi.
T'es rendu là. De faire un petit fade pour nous amener à d'autres choses. Hein. Ça rentre dans les nouveautés aussi que j'ai acheté tout récemment. Le nouvel album de Help. Donc ça, c'est un... Moi, ça va être un banger d'été. Vraiment, ça, c'est mon genre. Beaucoup. J'en parlais tantôt avec Olivier avant qu'Antoine se joigne à nous. Puis je suis un gros fan de Flying Lotus, donc ça vient me chercher à fond. Là. Donc ça, c'est le genre de musique que vous devriez mettre la main dessus. Il y a beaucoup de collabos, là je vous en dis deux, trois.
Mais c'est juste
là.
Ça, des collabos. Chaque chanson est une collabo? Ou,
Non, c'est pas toutes les chansons.
Alors, parce que le disque n'est pas encore sorti en vrai, tu as le vinyle avant tout le monde.
Voyons là, on dit pas ça.
Au moment de l'enregistrement, le disque n'est pas encore sorti.
C'est comme ça des fois, on a la chance des fois de...
Okay, fait que c'est pas toutes des collaborations. Quand même pas mal.
Oui. Donc, on a Laurent San. Nomme-moi les dons, t'as les autres.
Barle Noir, Claude Pelgag, Greg Baudin avec Awabi. Il y en a que je connais pas. M. Pompa. C'est quoi ça, M. Pompa?
Je peux te faire jouer l'album, c'est tout. C'est tout ce que je peux faire sur les informations pour le reste du disque.
On va l'écouter, ce disque.
Oui, ce disque-là, il va rouler pas mal. Puis c'est le genre de disque que tu peux pas trop tanner rapide parce qu'il y a beaucoup de couches. Donc au début, tu sais, t'es juste sur le top de la musique. T'as pas commencé à gruger l'important encore. Puis à force d'écouter, c'est vraiment un disque qui gagne à être écouté et réécouté aussi.
Mais je trouve ça cool que Félix fasse ce disque parce que t'sais, c'est un musicien vraiment... très talentueux, qui joue avec beaucoup de monde, justement, lui aussi. Puis c'est intéressant d'avoir accès à son truc, à lui, puis avec tous les collabos, justement, les gens avec qui il travaille, mais que là, les gens viennent dans son truc à lui, puis j'avais juste entendu cette toune-là, la collabo avec Claude, c'est ça?
Oui, absolument. C'est Babyfoot, la pièce qu'on entend en background. Donc, ouais, c'est vraiment du super bon boulot. Ben, en fait, ceux qui aiment ce que Félix fait, on peut noter aussi son groupe Oblique. Il y avait l'album Marche Moderne qui est sorti il y a 2 ans, peut-être. Un super packaging avec un gros booklet. Donc, ça, vraiment, là, c'est. S'il en reste des copies encore de Oblique, c'est à se procurer. C'est vraiment super bon. C'est lui qui chante là-dedans, le long. Donc, c'est vraiment un super bon disque.
Moi, je suis là pour situer s'il y a des gens qui savent pas c'est qui Félix Petit. Non, tout le monde doit savoir. Ben, en tout cas.
Ben non, mais tantôt, il l'a dit, tu sais, qu'il travaille justement, le saxophoniste qui travaille, saxophoniste claviériste, qui travaille avec Hubert et Les Louanges en particulier.
Oui.
Il fait un paquet d'autres choses. Il est dans les projets aussi que moi que j'aime, comme Chien volé aussi.
C'est drôle. Okay, il fallait qu'il choisisse parce qu'il faisait la tournée du Mal Noir puis la tournée des Louanges. Puis des fois, il y avait des problèmes de date.
Ça, c'est sûr.
Là, c'était où il va aller, qui avec qui il va décider de jouer.
Un peu comme ça, mais il y a tout le temps des subs pour ça. Là. Des fois, tu peux pas avec les horaires. C'est comme, il y a tellement de monde qui joue dans plusieurs groupes. Moi, mon fun, c'était on essayait de compter dans combien de groupes il joue. Ça se peut pas. Que dans combien, tu sais, le bassiste, dans combien de groupes il joue, je ne sais pas, 15, 20. Donc, tu sais, à un moment donné, quand le monde se met à tourner, tu sais, des fois, tu fais l'album.
Vous le vivez comment,
oui?
Les artistes, vous le vivez comment, mettons? Tu sais, on parlait de Marc-André tantôt, là.
Ouais.
Ton bassiste, il est super occupé avec plein d'autres projets. Ouais.
Puis avec Steph aussi, ben, là, tu sais, tout
ce qui est terrible, en fait, c'est de se dire que ce monde-là n'a pas le choix, en fait, de tourner avec autant de monde pour parce que...
Gagner leur vie,
c'est absolument. Tellement... Parce que personne, ou presque, est en mesure de t'offrir une tournée qui suffira, hein, tu sais. Moi, plus jeune, là, j'ai essayé beaucoup, là, de, quand il fallait que je remplace un musicien, j'ai essayé beaucoup de... Trouver la meilleure personne qui va faire la job la plus comme similaire à la personne que tu remplaces. Puis à un moment donné, j'ai juste lâché prise avec ça parce que t'es constamment déçu quand tu cherches ça. Là, parce que c'est ingrat pour les musiciens ouais. ou les musiciennes que t'engages. T'sais, fait que la tournée que j'ai fait comme en 2016-17, on était quatre. J'étais avec drum, bass et violoncelle. La violoncelliste Marianne Hull a joué des claviers aussi. Puis sur cette tournée-là, quand Marianne, qui joue du violoncelle, ne pouvait pas, ben c'était Pietro qui joue du cor français.
Ah ben là, c'est pas c'est ouais, correct.
Puis quand Marc-André, qui joue de la bass, ne pouvait pas, ben c'était China qui joue des synths. T'sais, fait que tout, c'était tout au bass synth. T'sais, fait que c'est comme... Tu peux plus dire... Tu peux plus ouais. dire comme... Ah, c'est pas exactement comme Marianne ou... Ah, c'est pas... Parce que c'est juste d'autres choses. Puis c'est juste après ça de faire comme, ben non, je vais travailler avec des bons musiciens, des bonnes musiciennes, que ça va être autre chose anyway. Fait que tant que ça soit autre chose, aussi bien que ça soit vraiment autre chose, puis que ça soit juste musical, puis que ça soit le fun. Moi, ça m'a vraiment aidé.
C'est une bonne idée, ça, de pas caster un autre bassiste qui va y ressembler, de complètement aller chercher ouais. quelqu'un d'autre avec qui tu tripes, que tu as envie de jouer. Ben, Shinako est déjà dans ton groupe souvent, là, mais...
Oui, mais à l'époque, elle n'était pas. T'sais, moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré à c'est une claviériste qui venait remplacer mon bassiste des fois, tu sais. Puis, mais c'est ça, tu sais. Puis, fait que toi, je sais pas, après ça...
C'est quasiment l'individu qui passe devant l'instrument.
Ben oui, là. Oui, parce qu'en fait, pour vrai, à partir du moment où c'est du monde qui sont bons, qui sont bonnes, je m'en fous de l'instrument que tu joues, là. Je veux juste que la vibe soit le fun, puis que tu fais ce que tu veux, puis c'est le fun. Mais c'est pas tout le monde qui a se lâché prise là sur... Moi, je l'ai... Je suis tombé là-dedans à un moment donné, puis j'ai réalisé que j'avais bien plus de fun. J'ai bien plus de fun que... Tu sais, moi, mon show, il est vraiment ouvert. Là. Mon show, il y a une couple d'affaires clés qui sont là, mais à chaque soir, il y a pas grand monde qui joue à la même affaire. Tu sais, puis à un moment donné, on a joué justement une église, puis là, il y avait un piano à queue qui était là, puis on disait, ah, on l'utilise ça, on va le mettre devant le stage, puis tu sais, je descendrai.
T'as fait la même chose à Salarossa. Moi, j'avais vu le show de Pissenlit à Salarossa.
Mais tu sais, la première fois qu'on a fait ça, à un moment donné, dans une toune où China joue des claviers, je me retourne vers le drum, puis China n'est pas là, puis je comprends pas, puis je réalise qu'elle est partie au piano, parce qu'elle est comme, ah, on a un piano, Chris, je vais aller l'utiliser, puis c'est ça, tu sais, moi, en tout cas, quand tu joues avec des musiciens, des musiciennes qui sont. En qui t'as confiance puis qui sont bons, mais je suis comme, faites ce que vous voulez pour vrai. Je sais que ça va être bien meilleur si vous faites ce que vous voulez, si vous faites ce que vous filez que vous devriez faire, que si je vous dis ce que vous devriez faire. Je sais pas.
Ouais. Bel exemple de maturité et d'évolution musicale.
Non, mais veux pas, on parle de jazz, puis c'est quand même. C'est ça la philosophie du jazz aussi, un peu. C'est qu'il y a une place à l'improvisation, puis que ce qui est intéressant, c'est pas de reproduire quelque chose ou de faire quelque chose comme c'est supposé être. C'est qu'est-ce que nous, ce soir, dans cet endroit-ci, dans le mood qu'on est, on va faire ensemble.
Ouais, c'est toujours une réinterprétation.
Ben, il faut.
Il y a quelque chose qui est vraiment le fun de ça. T'sais, moi-même, moi, ça a été, c'est là-dedans que j'ai étudié aussi saxophone à l'université. Puis. Je sais pas, il y a quelque chose de super là-dedans. Puis tu sais, en fait, nous autres, c'est surtout l'histoire qui en arrière de ça aussi, qui est quand même, tu sais, assez folle. Là. L'histoire du jazz aussi, qui est quand même le fun à étudier et tout ça. Donc, vraiment, genre de musique que j'aime beaucoup. Moi, j'enchaîne avec quelque chose d'un petit peu plus bizarre pour finir mon petit bloc, là, avant de pitcher la balle à Oli pour un petit bout. Je me suis trouvé, moi, un album des Descendants. Je sais pas s'il y en a qui sont fans de punk ici, donc... Melo Goes to College, First Press. Donc ça
très belle pochette. J'ai toujours aimé la pochette.
C'est un classique du punk, puis je voulais l'original. Donc, j'ai trouvé celui sur New Alliance, que c'était pas refait par SST Records après. Donc, ça fait un bout de temps que je voulais ça. Puis ça, c'est vraiment une pièce que je désirais depuis un très long bout de temps. J'aurais pu en avoir une à un prix assez décent. Donc, je ne bouderais pas mon plaisir pour vous mixer de l'électro avec du punk d'une seconde à l'autre.
Ouais, rentre-nous dedans avec ton punk. Fait que là, ça, là, c'est d'époque, là, faut que je fasse attention. Là. Il est en bon état, ton vinyle, la pochette.
Eh oui, vraiment.
1982.
Ouais, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du punk et qu'on appelait du hardcore dans le temps. Donc ça, faut connaître ces classiques avec les Descendants. Puis ben là ma quête continue. S'il y a quelqu'un qui a I don't want to grow up, je le cherche. Donc deuxième, j'ai le premier, j'aimerais savoir le deuxième, qui est jaune.
Original,
c'est Milo, encore une fois. Milo est sur toutes les pochettes des Descendants jusqu'à ce jour encore.
Ah, c'est carrément le nom du personnage, Milo Ghost.
Oui, c'est le branding des Descendants depuis toujours. Puis, il est en train de faire une petite split sur le deuxième album. Ou on ne sait pas s'il fait une split ou il saute dans les airs et il est en train de faire une split. On ne le sait pas.
Il y a comme un petit côté Fido Dido quand même.
Nous autres, hey. La mascotte de 7-Up. J'avais le bonhomme qui s'étirait.
C'est vrai, c'est les cheveux.
En caoutchouc, Fido Dido.
Le côté trait de crayon feutre noir sur fond blanc avec les petits cheveux dans les airs.
Oui, puis tout le monde se demande, c'est quoi, il y a juste des narines puis pas de bouche. C'est tout le temps ça le problème avec Milo. Le dessin est super bien fait que même s'il n'y a aucun sens, tu y adhères.
Mais c'est une bouche, non, la ligne? Pour moi, c'est sa bouche, ça.
Ben, c'est drôlement fait, puis il est tout le temps comme ça. On dirait que ça a de l'air autant. Si c'est Plécanet, si tu dis que c'est un col roulé, mais lui, c'est peut-être une bouche.
Non, il y a une chemise. Moi, c'est sa bouche.
Moi aussi, c'est sa bouche, je pense.
Il est fait bizarre, en tout cas. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de dessus de tête, il y a juste des cheveux, il y a quelque chose de vraiment
des
bien
lunettes.
Fait, puis simple. Ouais, puis de la grosse lunette. Donc, je vous laisse aller sur un autre des Descendants, parce que ça dure. Hey, c'est des fois, là, je vous dis, c'est tellement court, là, c'est plus court que les maladresses, des fois, des tunes. Donc, vraiment, c'est de la tune qui est courte, mais comme les maladresses, c'est des bangers. Donc,
mais c'est drôle, hein? Quand je travaille sur une chanson, moi, je pense que je check pas vraiment combien de temps elle dure, tu sais, puis c'est une surprise à la fin, là. Non, mais des fois, c'est 7 minutes, puis des fois, c'est 1 minute 59.
Non, mais c'est cool, mais c'est juste qu'on dirait, puis j'adore
on l'étire
ça.
En show.
Non, mais moi, j'adore ça parce que des tunes numéro 2 d'un album qui durent moins, qui sont pas une introduction, qui sont une vraie chanson, puis qui durent moins de 2 minutes, je pense que j'ai jamais vu ça. Sur mes 1410 que j'en ai de moi, t'es peut-être le seul. Puis ça, quand quelqu'un qui sort un peu de la norme, c'est tout le temps un peu le fun. Je me rappelais un Ben Hardcore, j'aimais beaucoup, Dillinger Escape Plan, qui fait du hardcore assez technique. Il s'amusait en spectacle de jouer, quand ils n'aimaient pas tant la vibe ou la room qu'ils ont eu pendant une soirée, ils jouaient leur tune 33% Burnt, que tout le monde aimait, puis ils l'arrêtaient, puis ils s'en allaient. Ils ne la faisaient pas au complet, ils partaient, là, le monde trippait, ça se mettait à trasher, puis là, ils arrêtaient la tune, puis s'en allaient.
Ouais. C'est comme, je sais pas si je suis pour ça, moi.
Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que dans toute ma vie, quand même, quand j'ai fini un disque, il est venu un moment où, peu importe avec qui je travaillais comme maison de disque, on me demandait de faire une version un peu plus courte d'une des chansons pour faire un édit radio. Et pour la première fois de ma vie, on a fait un édit un peu plus long. On a rajouté des sections dans Maladresse.
Ça, j'allais dire, t'sais, Maladresse, puis le bruit des eaux aussi, il me semble, c'est court, puis ça finit clock.
Attends,
wow,
attends une seconde, le fou, je t'aide. Était plus courte, puis vous l'avez rallongée à 1 minute 58.
Je pense qu'on aurait. Non, non, sur l'album, c'est pas mal 2 minutes, là, pile, ou quelque chose du genre.
Non, 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 il est marqué sur Bandcamp.
Je pense que c'est 1,59, là, quelque chose comme ça. Mais, me semble, je suis pas sûr, je me trompe peut-être. Peut-être que ça la rallonge pas vraiment, là, mais je pense qu'on nous a demandé de faire une affaire. Là, parce que je pense que sur l'album, l'intro est un peu longue avant que je me mette à chanter. Fait que. Je pense que ça commence plus rapidement, mais on a comme doublé un refrain ou quelque chose du genre là, qui n'est pas là sur l'album. Moi, ça me fait tout le temps rire, ça.
Je vais fouiller à Radio-Canada si on l'a, cette version plus longue.
Je vais fouiller dans mes affaires, moi aussi. Là, c'est un peu flou, mais c'est tout le temps drôle, ces affaires-là. Faire un édit radio. Au début, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu comme « Non! C'est pas possible! » Puis là, des fois, je l'ai fait. Mais c'est fou, parce que des fois, tu le fais puis tu fais comme « Fuck, c'est meilleur. » tu sais, ça m'est arrivé, il y a une chanson, j'étais comme, j'aurais peut-être dû faire ça, tu sais, des fois, c'est juste de, encore, tu sais, il y a moyen de jamais finir un disque, là, tu sais, de faire comme, d'essayer toutes les options, puis, ouais, mais ça m'avait fait rire, rajouter des bouts dans une chanson.
Non, moi, je trouve que, là, je sais qu'Antoine va dire, non, je pense pas à ça, c'est pas le lien, mais... Les chansons, c'est des chansons extrêmement accrocheuses. Là. On parle de maladresse, puis moi aussi, moi, j'entre le bruit des eaux aussi, que je trouve qu'il finit trop sec. C'est ta manière de... Quand c'est un hit plus radio, puis que la mélodie est trop pop, là, OK, non, j'en ferai pas un succès de 3 minutes.
Vous l'aurez pas.
Ça va finir plus vite que ça, parce que je l'assume pas. Je sais que tu vas me dire non, c'est pas le cas.
Non, j'ai envie de... Philippe Braque, je pourrais te dire... Ouais, je sais.
Avec, en mettant une séquence de noyade dans sa chanson la plus pop du dernier disque. Moi, à Déjeuner en paix, je peux pas la faire jouer, la toune. En tout cas, on se demande si à 7h30 le matin, c'est bien d'entendre quelqu'un qui est en train de se noyer à la radio. Fait qu'on n'ose pas la faire jouer, puis il veut pas faire de remix radio. Fait qu'il a saboté le plus gros succès de son album avec cette affaire-là, tu sais. Fait que ça se fait conscient, inconsciemment.
Ouais, c'est ça que j'allais dire.
Il l'a saboté, puis pas saboté.
Je pense pas à ça. Parce que c'est la première affaire, probablement, qui me vient en tête, mais peut-être qu'inconsciemment... Moi, je me souviens, quand la journée que j'ai travaillé sur cette tune-là, puis que là, ça a un peu pris forme, je trouvais ça bizarre. J'étais comme dans une zone où j'avais du fun, je trouvais ça cool, mais j'avais l'impression que c'était vraiment pop, là, t'sais, comparé à ce que je faisais d'habitude. Puis il y avait comme un événement de la Socan ce soir-là où j'étais allé, puis... Je parlais avec Lisa Leblanc qui était là, puis là, je disais ça. Je disais, je travaille sur une toune, mais là, c'est comme vraiment un pop. Là, je sais pas trop quoi faire avec ça. Puis elle me dit juste, t'as-tu du fun? Puis, tu sais, la réponse était oui, puis ça m'a aidé beaucoup quand même. Puis après ça, c'est ça aussi, là, ce qui est pop pour moi, l'écrissement pop pour bien du monde.
Oui, puis il y a un mouvement en ce moment, je trouve, dans la scène indépendante qui tend vers la pop comme rarement avant. En fait, les gens fusionnent tellement de styles ensemble, dont la pop, mais vraiment des fois très intense.
Ouais.
Mais ça passe, là, il y a une espèce d'ouverture. En tout cas...
Mais c'est parce que je pense que, tu sais, après ça, là, la pop, là, on s'entend qu'il y a des... dans les 60 dernières années, ce qui était pop, là, il y a vraiment du gros stock, vraiment bon. Là. Je veux dire, si on parle de Madonna, si on parle de Michael Jackson, si on parle, je veux dire, c'était de la pop, c'était la pop de l'époque. Après ça, c'est comme si sous le nom pop, on a mis beaucoup de choses sous le nom pop, là, tu sais, mais après ça, comme...
Dès que c'est devenu comme commercial, facile et cliché, on l'a mis dans pop. Alors que
c'est faudrait peut-être juste le mettre dans musique malhonnête, tu sais. Comme dans démarche artistique zéro, tu sais, genre, je sais pas, tu sais, il y a quelque chose... Pour moi, c'est ça, là, tu sais. Moi, je m'en fous si tu utilises des procédés, des affaires super pop, mais que j'écoute ton affaire puis que je sens que... Je sens que tu me dis la vérité, là, tu sais. Je sais pas.
Qu'est-ce que tu mets, Benoît? Je sais ce que tu vas mettre. On le voit à la pochette.
Let's go, vas-y, spoil.
Non, un album de Björk. C'est le disque, en fait. Donc, c'est le disque de Björk pour moi, Homogenic.
C'est le meilleur disque qu'elle a fait ever. Elle a fait un paquet d'essais tout le temps, puis je voulais un original de 1997. Et Pierre, au 33 tours, en a reçu un. Petit truc, d'ailleurs, pour les fans, si vous voulez avoir des disques rares, passez au 33 tours le dimanche, parce que le lundi soir, il les met en ligne. Et là, tous les gens du Québec peuvent nous les voler. Donc ça, c'est vraiment
pas... Les dimanches sont où? Sont dans les magasins, vos arrivages?
Oui, ben, dans les raretés, ou peu importe où tu cherches. Là, moi, je m'en vais directement dans rareté. Donc, proche de la caisse. Donc là, c'est là qu'il faut que tu digues le dimanche. Je sais pas s'il met vraiment dimanche, mais samedi, dimanche. Mais je sais que le lundi, là, il met ça en ligne. Puis là, c'est ça. Donc, il y avait ça. Et j'ai pensé à toi, Ali, parce que je sais pas si je te l'avais envoyé. Il y avait un broadcast.
Oui.
Tender Button. Ouais. Oh, ça me tentait.
L'original, tu veux dire?
Oui,
parce que les rééditions, là, ils coûtent 20-30$.
Oui, non,
mais
ben c'est pour ça.
Bien,
ils sont parfaits.
Moi, j'ai pas la maladie des OG comme toi. Là. Les rééditions sonnent bien. Merci, bonsoir.
Moi,
là.
Que avoir la meilleure édition, ça, je m'en fous. Mais quand j'ai le choix d'avoir un original, ça, c'est hot. Hein. Mm. Je suis vraiment. Tu sais, les autres, là, je suis rendu limité, la couleur. Si tu me donnes un OG, tout ça, je m'en fous. Là. C'est vraiment. Même s'il n'est pas parfait, lui, je trouve ça cool parce qu'il est presque parfait. Puis, je pense, moi, 97, c'est comme l'année importante. Tu sais, il y a ça, puis OK Computer qui est sorti en même temps. Puis j'ai fait comme OK, il y a du monde qui peut faire des affaires vraiment un peu plus fucked up, puis qui peuvent réussir à fonctionner, puis que ça soit cohérent, leur démarche, ça soit pas vraiment n'importe quoi, puis qu'il y a vraiment des compagnies qui est back, là, tu sais. Tu sais, pour moi, Bjork, tu me demandes c'est qui la meilleure chanteuse ever que j'ai entendue, puis me fait filer, là. J'ai Ella Fitzgerald puis Bjork qui sont égales. Je pourrais pas te dire c'est laquelle des deux, parce que Ella, elle a quelque chose de spécial, puis son scat, sa joie de vivre, sa vie qui a été rock and roll, tu sais, versus Bjork qui est tout le contraire, là, tu sais, qui est dans son coin, qui, si elle pouvait vivre seule, elle le ferait, là, tu sais, donc c'est le contraire de Ella aussi. Mais non, je trouve ça, c'est un disque pour moi qui est... Le côté aussi musique électro, puis tu sais, ça paraît là, que c'est de l'électro, là, on dirait mal fait presque le drum, mais c'est bon, on dirait, tu sais, de la façon que c'est traité. Puis c'est ça, cet album-là, à chaque fois que ça joue, je fais comme...
Mais c'est bon, hein, tu dis tes deux chanteurs préférés, Ella Fitzgerald puis Bjork, c'est une wow. grosse question, là. Mettons, même les gars, là, nos deux chanteurs préférés, nos deux chanteuses préférées, pouf, je suis pas capable de répondre tout seul.
Moi, là, j'aime mieux l'agilité de certaines... J'ai l'impression que pour moi, mes deux chanteurs sont en bas de mes deux chanteuses préférées. Pour de vrai, mon chanteur, c'est même pas parce qu'il fait des prouesses ou qu'il a un feel spécial. Ça, je pense que ça serait Frank Sinatra numéro un. Pour vrai, pour ouais, moi, ouais. La façon qu'il fait juste « je te chante une chanson ». Ouais. Il parle presque, le gars. Je veux dire, il y a quelque chose qui se peut pas de ce gars-là. Je l'écoute, je fais comme « c'est quoi? C'est juste un monsieur d'une convention qui parle d'un micro. » Il y a quelque chose de spécial de Frank Sinatra qui est out of this world, puis sinon, si j'étais dans mon temps, mais je te dirais que Mike Patton, puis sinon, du monde d'avant-garde, moi, Yamatsuka Ai, des affaires comme ça, chanteur japonais, mais non, sûrement, ce serait Mike Patton, d'abord, si c'était mon gars. Toi, ton gars?
Je sais pas, c'est ça, je suis pas capable de répondre.
C'est tough. Non, Mike, Antoine? Il est...
Moi, c'est Curtis Mayfield, mon chanteur préféré.
Oh, ouais, Curtis.
Ouais, ça, c'est... ouais, ça a été comme une découverte pour moi, puis c'est comme... un des rares artistes que tu sais, souvent, j'ai été beaucoup touché par, je sais pas, comme une espèce de spirit, des textes, des musiques, mais que Curtis, c'était vraiment... waouh, quelle voix que j'étais comme, je comprends pas, il y a quelque chose qui me dépasse, que je trouve tellement beau dans sa voix. Voilà. Sans hésitation. Oh,
absolument.
Puis chez les femmes, ce serait probablement... Nina Simone.
Ouais, ça j'avoue ouais. que... Genre, celle qui me fait filer un peu comme Björk, il y a celle qui... La chanteuse de Portishead.
Ouais, j'allais
ça,
là aussi.
C'est quand même
Beth
ça.
Gibbons.
Ouais. C'est ça, Beth Gibbons.
C'est un des disques que j'aurais amené.
Oh, ce wow.
soir. L'album solo de Beth Gibbons et Rustin Man, pour moi, c'est un gros disque. Là. C'est incroyable, ce disque-là. J'y reviens encore aujourd'hui, puis...
Mais moi, de tous leurs disques, je ne possède uniquement que le live. Puis
ah ouais?
J'ai écouté les autres, puis c'est de loin l'album qui... Je pense que j'aimais beaucoup le visuel de elle à côté de son micro avec sa touille un peu. Je pense que tout ça, c'était magique. Là. Autant qu'il y a du monde qui rêve d'avoir vu Nirvana Unplugged, là. Moi, c'est le show live qui est à côté avec sa touille. Puis clac, il y a quelque chose de vraiment poétique là, à ça, là, cette image-là. Ouais. Ça aussi, puis c'est pas mal des mêmes années, ça aussi, que ça s'est fait, là, ce live-là. Parler ouais. de 97, là, ouais. ça doit être dans ces années-là. Là. Live in Roseland, là, c'est
ouais.
wow, cet album-là. Là. Ouais. Ça, c'est un album à avoir aussi qui est disponible et qui sonne. Là. C'est rare les albums un peu orchestraux que je trouve qui sont bien réussis. Là. Ça serait, je pourrais dire Fudge. Achetez Fudge au Grand Théâtre de Québec. Ça sonne en tabarnouche. Ouais.
Je suis pas capable, je suis en train de tout là, de promener dans ma discothèque sur l'application Discogs. Là. Tout est rentré. Là, puis je regarde mes chanteurs, chanteuses préférées. Là. Je suis pas capable de vous en nommer un. J'aime beaucoup entendre chanter All Green là, quand tu as parlé ouais. de Curtis Mayfield. J'ai tout de suite pensé All Green. Ouais. Mais...
Moi là-dedans, je pense que c'est Bill Withers, mon préféré.
Mm-hmm.
Je pense que c'est lui qui prend la pole position, surtout pour ses qualités live. Là.
Ouais.
Mais il faut dire qu'il y avait un band de Dieu là, qui se pouvait pas, là, qui suivait au quart de tour. Pis tout,
ouais.
là, mais lui aussi, son album live à Carnegie Hall est comme. Tu vois, c'est un des seuls aussi que je possède un best-of. Un best-of de Bill Withers, là, ça vaut la peine.
Moi, ouais, les best-of, là, je suis rendu de moins en moins contre. J'ai été longtemps un puriste, là.
Moi, je suis contre.
Puis, ouais, ben j'ai été longtemps comme toi. Tu vois, là, depuis... entre autres, avec le vinyle, ouais. On dirait que le disque vinyle coûte... Je me répète-tu, Benoît, je n'ai-tu déjà parlé dans ton podcast de ça?
De quoi?
Des greatest hits?
Ça paraît. Ça, c'est un sujet récurrent. Les greatest hits, mais parler si du record store day, les deux sujets mais qui sont jamais épuisés.
J'ai snobé ça longtemps, les greatest hits, mais là, depuis que les vinyles coûtent cher, puis que des fois, j'ai envie d'avoir tel groupe en vinyle. Mettons là, les Foo Fighters. J'ai envie, il y a plein de tunes des Foo Fighters que j'aime, mais il n'y a pas vraiment un album complet que j'aime. J'ai pas envie de dépenser plein d'argent pour acheter la discothèque au complet que j'écouterai pas de toute façon. Il y a un Greatest Hits qui existe avec toutes mes tunes préférées. Il va coûter, c'est un double, il coûte un peu cher, là, 40, 50, je sais pas trop, là, mais j'achète ça, puis that's it, c'est réglé. J'ai plus besoin d'acheter 10 des Foo Fighters si j'en veux en vinyle. Clock, j'ai toutes mes chansons préférées. Mais je pense que c'est nouveau chez moi. Là.
Non, mais je pense que moi, en fait, il me vient pas en tête beaucoup d'artistes de qui je suis comme j'aime vraiment cette chanson là mais le reste j'ai pas moins ou pas vraiment. On dirait que tu sais, j'ai mes tunes préférées de certains bands, certains artistes, mais j'aime tout le temps, mais c'est, je sais pas, je suis comme souvent en fait, si j'écoute un disque puis qu'il y a une ou deux tunes que j'aime dessus, j'écoute juste plus. Ouais. C'est dommage parce qu'il y a une tune que j'ai vraiment aimée, mais t'sais, comme, je sais pas, t'sais, je pense à, puis j'ai pas écouté le dernier, peut-être j'aimerais ça, mais mettons l'avant-dernier disque de Julia Jacklin, mettons, que j'ai découvert, c'est une Australienne, okay. La chanson Body, qui est comme incroyable, c'est vraiment une chanson incroyable, magnifique, un mood débile, puis j'étais comme wow, elle est super, puis t'sais, je mets le disque, puis je veux aimer ça, mais je trouve ça plate. Mais cette tune-là, j'ai la trop débile, mais je me retrouve devant le disque au magasin, je l'achète.
Ah, tu l'achèteras pas, ben non, c'est ça, exact.
Puis, mais fait que je comprends un peu ce que tu veux dire, mais c'est ça, je finis par oublier.
CCR, mettons. on en parlait avec Mélissa, le Greatest Hits de CCR, il est parfait.
Ouais.
Je commencerai pas à diguer puis acheter tous les albums de CCR, là, mais il y a une compilation
double,
tout
est bon. Est-ce
que c'est
juste que finalement, le best-of, c'est bon pour les bands que t'aimes, mais pas tant?
Exactement.
Ouais. C'est ça.
Parce que je chéris mes vinyles. N'entre pas qui veut dans ma discothèque de vinyles. Là. Je ferai pas la même erreur qu'avec mes CD. Que j'ai rentré toutes les promos que je recevais. Là.
Ouais.
Chez mes vinyles, là, c'est comme wow. Souvent, on me donne des vinyles en cadeau. Je les garde pas. On va les vendre direct. Je suis comme non, ça, je veux pas ça. T'sais. Fait que j'aurai pas toutes les. Ouais, un petit greatest hits une fois de temps en temps. J'ai appris à vivre avec.
De façon vraiment, c'était vraiment inopportun. J'ai décidé de mettre un disque de Frank Zappa.
Non, mais j'ai trouvé que le début là, de Frank Zappa, ça sonnait comme All Minds de. All Minds de. Y a-tu un S? Non, pas d'S. All Minds de Portishead au début.
Tout le monde a copié sur Frank. Donc, on écoutait Frank Zappa meets The Mothers of Prevention. Donc, c'était contre le bon vieux PMRC. Puis on avait un paquet de mamans enragées contre la musique qui était trop violente puis qui était pour changer leurs enfants. C'est à cause d'eux que vous avez maintenant les Parental Advisory sur vos petits CD et tout. Puis Frank Zappa est allé au Congrès pour défendre le droit de dire ce qu'il veut et faire la musique qu'il veut. Vous pouvez encore retrouver ces envolées, je pourrais dire, quasiment lyriques à propos de la liberté d'expression. Puis de la qualité du travail qu'il faisait. Puis c'est encore disponible quand il parle au Congrès américain. Puis il parle tellement bien, c'est comme... Tu commences à l'écouter, puis tu veux l'écouter au complet. Il est en petit saut, tout est parfait.
Ah, mais c'est un personnage tellement intéressant. Moi, je connais vraiment pas bien sa musique.
Moi non plus, mais j'ai quelques disques.
Mais être prêt d'envie, je pense, pour s'attaquer à l'œuvre de Zappa.
J'ai travaillé, quand j'étais jeune, j'ai travaillé avec un illustrateur. Je travaillais avec lui, je mettais ses illustrations en couleur, puis... J'allais travailler chez lui, je passais des journées complètes, puis il passait ses journées à faire des dessins pour des livres pour enfants, en fumant des battes, puis en écoutant du Zappa. Puis c'est ça, mon exposition à Zappa. Je vois que j'en ai inspiré un.
C'est une cigarette que je vois.
Puis, j'étais comme... j'étais jeune, je connaissais pas beaucoup de choses, je connaissais pas beaucoup de musique. J'étais très conservateur dans mes choix. Puis c'est drôle parce que dans la dernière année, je sais pas pourquoi, mais je me dis justement, je pense que l'espèce de groupe d'écoute que j'ai créé m'a créé une grande a comme fait exploser ma curiosité encore plus. Elle n'était pas particulièrement déficiente, mais je pense qu'elle est encore plus intense. Puis des fois, j'ai des espèces de buzz de « Hey, je connais pas assez tel artiste, puis je vais lire sur cet artiste-là ouais. pendant des heures. » Puis j'ai fait ça dans la dernière année sur Zappa, mais j'ai pas encore plongé, mais c'est un projet quand même.
Oui, puis c'est Frank Zappa, c'est que c'est beaucoup de choses. Oui. Frank Zappa, c'est en dernier lieu un chanteur,
ouais.
faut le savoir. Puis en premier lieu, un compositeur, avant d'être un guitariste.
Ouais.
Donc, c'est vraiment un gars qui compose. T'sais, les sections, on pourrait dire que des fois aussi, il y a des formes un peu qui se rapprochent presque de la musique classique aussi. Donc, il peut être autant jazz, il peut être... Puis, il est toujours, ben, surtout humoristique.
Ouais.
Donc, mais c'est pas du cabotinage. Il y a quelque chose de profond. Puis, le bon vieux clown triste qui peut être Frank Zappa et tout... Donc, c'est un disque que je cherchais. Puis la pochette qui est juste marquée en gros, noir sur blanc, Frank Zappa meets the Mothers of Prevention. Il y a quelque chose qui est super. Puis ça, c'est la version US. Il y a une version Europe aussi de ça qui est le contraire. Donc, blanc sur noir. Puis il est marqué European Version. Je pense qu'il n'y a pas les mêmes... les parties de speech qui fait sont pas les mêmes et tout. Donc, il y a une version européenne. Et je la recherche. Donc, s'il y a quelqu'un qui a la version européenne, moi, je me sens aussi...
Ça sent ton podcast.
Mais, tu sais, Antoine l'a vu en rentrant. Moi, j'ai des cadres ici, puis je change ça. Donc, disons, il peut y avoir quatre versions d'un album, tu sais, comme Daniel Bélanger. J'ai les quatre, c'est pour mettre les quatre couleurs.
Ah ouais, okay, t'es...
J'ai réussi à avoir
ça. Sont meilleurs.
J'ai mes quatre malajubes. Pour ça aussi. Uh-huh. Ça, c'est important, mes trompe-l'œil.
Les quatre éditions vinyles de Malajube Trompe-l'œil.
Ouais, donc
mais les pochettes sont toutes pareilles,
ouais,
par exemple.
C'est pas grave, c'est beau, quatre pochettes pareilles.
C'est quoi, c'est Dare to Care, City Slang?
C'est tout, parce qu'il y en a trois Dare to Care puis il y a un City Slang en Allemagne.
Ah, ils ont pas, trois c'est quoi, pressings la... de trompe-l'œil différents, Dare to Care?
Ouais. Il y en a un rouge, un bleu blanc, puis un rouge blanc. Mais il peut être
rose
blanc.
Malgré tout ça, il reste introuvable. À chaque podcast qu'on va faire, je vais le dire, Dare to Care, come on, rééditer le catalogue de Malajub. Là.
Moi, je tout le temps, je dis, ah, pas besoin.
Le monde demande 100$ pour compte-l'œil, là, trompe-l'œil.
Hey, le monde achète menteur, puis il y a deux bonnes tounes, là, pour ce prix-là.
Puis ça, c'est trompe-l'œil, puis l'autre, le compte complet, il est introuvable.
Oui, puis il sonne mal. Ça, si on pourrait le refaire, là. Moi, j'ai essayé toutes les Malajub, puis ça sonne mal.
Ah, mais ça sonne mal à la source.
C'est ben pas, non, le CD il sonne bien. Je pense que c'est vraiment un problème de pressing puis tout. Le CD sonne vraiment mieux.
Ça
que
sonne
le
mal,
vinyle.
Mais comme lo-fi,
ouais,
cool.
Ouais, ouais. Ouais. C'est un peu la légende, c'est quand même que la personne qui a mixé ça a fait comme.
C'est pas Martin Pellant qui avait tapé ça avec eux autres, le gars des Deers. Il me semble qu'il était.
Je pense que c'est peut-être trompe-l'œil. Moi, j'ai entendu beaucoup que le gars qui a mixé ça comme fait tabarnak, pour vrai, je sais pas quoi faire, là, puis qui a fait des petits miracles. Là. And the rest is history.
Ouais. Bref, introuvable en vinyle, ridicule. Ça, c'est-tu Zappa qui chante?
Ça, c'est toujours Zappa.
Ouais, c'est lui qui
chante. Mais là, c'est bizarre parce qu'il n'a pas l'air d'avoir la même voix que d'habitude. Mais
il essaie de chanter comme Frank Sinatra.
Ouais, mais il parle tellement en personnage que ouais, c'est ça qui arrive. Ça arrive assez souvent avec lui. Puis il faut dire qu'il y a tellement de collaborateurs avec Frank Zappa. C'est un peu malade mental, en fait. T'sais, il y a vraiment une tonne de choses. Et, pendant que tout le monde est en demi-pause, des fois, ça arrive, ça, pendant le podcast. moi, j'en profite pour faire ma chronique littéraire. Parce que
on va aller fumer une cigarette, moi et Antoine.
Ouais, je suis vraiment un lecteur de boîte. Puis je suis vraiment pas bon dans la lecture et tout ça. Donc là, j'essaie de me forcer un peu. Mais je me force pas parce que je prends juste le meilleur. Donc là, je vous avais parlé que j'avais commencé à lire Granby au passé simple. Donc, la gang de chenoux. Hein, donc, tu sais, c'est ça, Granby. Hein, donc, represent. Que j'ai presque fini. Donc, la dépression achève de Pops. Donc, je suis presque rendu au bout. Puis là, j'avais de la misère un peu en même temps. Ben, en fait, je vous l'ai déjà dit, on en a parlé l'autre semaine du livre d'Hakim. Donc, elle a acheté ça. C'est aussi bon que le cigare au bout des lèvres. Puis c'est pénétré un petit peu plus loin encore dans ce qu'est Hakim Gagnon. Donc, c'est vraiment, c'est moins juste trash, puis se promener un peu partout. Là, il y a vraiment une lignée, puis essayer de comprendre aussi ce qui a fait la personne qui est, en fait. Donc, c'est vraiment super cool. Pour de vrai, ouais. Si vous n'avez pas lu ça, lancez-vous là-dessus. Puis c'est bien fait pour les personnes comme moi parce qu'il y a 1 million de petits chapitres. Donc, tu as tout le temps l'impression d'avoir fait ton bout pareil. Tu sais, j'ai dit la même affaire pour Gollum de Marie-Hélène Poitras. Des petites parties que je suis capable de lire pour des lecteurs comme moi, c'est superbe.
Des nouvelles.
Ouais, ben de la nouvelle aussi. Ouais. En tout cas, plus quelque chose qui tient d'être un peu plus long que de ne pas lire juste des nouvelles. Puis, entre ça, là, j'ai hâte de finir le livre. C'est bon, mais j'ai quand même hâte parce que là, Shérif Junior, Samuel Quentin aussi, qui est sorti. Là, je l'ai pris juste pour voir il y a combien de pages. 447 belles pages de BD. Donc, si vous avez les affaires vraiment super déjantées, moi, déjantées, c'est encore plus, hein, mal dit de même. Puis, en même temps, j'avais un petit signet qui me marquait aussi que White Horse, son livre d'avant, va être produit chez Duceppe. Puis, de la BD chez Duceppe, on y est arrivé, gang.
C'est
on
cool. On a enfin réussi. Ce que fait Duceppe.
Je pense qu'on a réussi, gang. On a réussi à changer Duceppe de fond en comble.
Les
ça
directeurs
a pris beaucoup
artistiques
d'années, mais on y est
de Duceppe sont vraiment bons.
Ouais, donc ça, c'est super. Donc, je vais être obligé de... Je vous aime la licorne. Hein? En passant, les abonnements de la licorne, ça, je le dis. Moi, j'ai pris les miens. Donc, ça, l'abonnement de la licorne, c'est le temps aussi. Ça, il faut que je pompe le monde pour y aller, mais pas trop, pour être sûr que je puisse tout le temps avoir un petit billet de plus quand je choisis d'en rajouter une à ma sélection.
C'est incroyable.
Mais non, la licorne, allez-y, gang. Non, mais ça, là, c'est le temps parce qu'il n'y aura plus de place. Puis là, ceux qui voulaient voir deux femmes en or, ben, vous faites déjà oublier ça, sûrement que c'est déjà tout plein. Ça, c'était vraiment la folie. Puis, tout ça pour dire que Samuel Quentin, son dernier livre s'appelle Shérif Junior, c'est chez les magnifiques Pau Pau. On dirait qu'ils font rien de mauvais. T'sais, donc, j'ai eu la chance de dire un petit allô pendant le Festival de la BD, qui malheureusement a quitté le parc pour se mettre sur du bitume. Donc, il faut vivre avec ça. Puis, il faisait à peu près 38 à l'ombre. Donc, on espère qu'un jour, ça va revenir dans le parc. J'ai jamais compris le move. Mais c'est quand même un super festival qui vaut la peine. Puis, il y avait aussi l'ami Félix B. qui était là avec son livre sur les 5 grandes légendes du métal. Je me rappelle pas c'est qui l'illustrateur, Chaimon Demy, par exemple, qui était là, qui avait passé la journée là aussi. Donc, très belle journée encore pour la BD. Donc, ceux justement qui ont de la difficulté à lire les livres, on a comme les meilleurs BDS au monde. Puis c'est une gang qui se tient puis qui est vraiment très cool. On dirait que le monde les connaisse plus ou moins, mais une gang très cool. J'ai pu redire merci à Caton aussi, qui avait fait mon petit logo pour projet particulier aussi. Puis c'est là que, c'est ça, je prends une petite pause. Je pense que je vais faire mieux qu'une petite pause. Je pense que je vais closer notre podcast drette là. Puis je vais en profiter.
Tu n'as pas parlé du travail d'Antoine Corriveau avec projet particulier?
Ben, il t'aide c'est ça, mais là, faut pas que tu dises ça parce que là, c'est ça que je m'en
disais. C'est secret.
Je vais closer ça, attention, en remettant à Antoine.
Ah, c'est vrai.
Les deux, je les ai déjà placés en arrière de moi, sur cette musique de fête. Je remets à Antoine les deux disques sur lesquels il a participé de façon graphique. Donc, qui m'a aidé à rentrer ça dans un template puis de replacer les choses comme du monde. Donc, avant de partir pour l'impression, le disque de En bouffe les bites. Les autres liaisons, un disque que j'ai toujours adoré, puis je sais qu'il n'était pas pour se faire, donc je voulais l'avoir. Puis le encore plus magnifique disque de Pataugeoire, Nom Nom.
Mais c'est très cool, en fait, que tu fasses ça, qu'il y ait cette espèce de... Puis c'est pour ça que moi, ça m'a fait plaisir de te donner un coup de main, parce que je suis comme... Je sais pas, c'est juste intéressant que de qu'il y ait une production pour ces espèces de projets que personne ferait si tu le faisais pas, ou que les gens le feraient,
mais l'idée aussi c'est d'en donner une copie à l'artiste pour que lui y ait un vinyle de tout ce qu'il a fait, puis qu'au pays ils peuvent dire moi je fais jouer chez nous mon stock que j'ai aimé. Puis en plus t'as un disque, tu sais, qu'il a fait en entier aussi pour gagner le cabaret festif, donc très cool.
Mais
aussi,
ça prend quelqu'un de passionné pour le faire, là, puis je pense que c'est toi.
Mais là, convainc-le.
On essaie de continuer.
Dernier enregistrement, il a dit que projet particulier, il voulait que ça soit un label où il était pour perdre l'argent à chaque sortie, puis ça, il n'y a aucun plan d'affaires de label qui ressemble à ça.
Je pense que c'est l'avenir de la musique, ça.
C'est du mécénat, dans le fond.
Ben, c'est ça que c'est, en fait. On peut le faire à notre manière, le mécénat. On n'est pas obligé d'être juste un gros plein qui paye des salles de spectacle. Je pense qu'on est capable de tout aider les artistes à notre manière. Là. les fois, justement, qu'il y a quelqu'un qui vient jouer dans la cour, puis je décide juste, viens jouer 4 tounes, 5 tounes, 6 tounes, puis je te donne 500$ pour lui. Il y en a qui trouvent que c'est une bonne paye, qui vont jouer au quai pour moins que ça, puis ailleurs, puis ils disent, c'était cool, le monde était le fun, puis ils le font. Puis de faire des 10, c'est une autre façon aussi d'encourager ces personnes-là qui pour moi, sont super importantes. Moi, je trouve que la scène qu'on a à Montréal, puis moi, la petite scène qui est proche de l'Esco puis le quai, c'est fou, tout ce qu'on peut voir là, puis... Je pense que ça vaut la peine d'encourager ça. Donc, moi, je veux continuer vraiment à essayer de faire ça. Donc, puis on a déjà quelques autres projets.
Il faut faire ça parce qu'en fait, c'est comme un peu. J'ai l'impression qu'en ce moment, tu parles labels. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de labels qui se demandent à quoi ils servent. Là, parce qu'il y a de moins en moins d'argent à faire en musique quand même, dans la musique, de produire des disques. Après ça, là, les gens ils cherchent des manières d'en faire, puis ils en trouvent des fois. Mais tu sais, j'ai l'impression que, je sais pas, je crois beaucoup. Après, j'ai un parti pris parce que comme vous deux, je consomme full de disques de musique sous le format de l'album puis des vinyles. Puis comme je disais plus tôt aujourd'hui, je m'en crisse de quelqu'un qui sort un single. c'est pas ça qui me... C'est pas ça qui m'excite, c'est pas ça qui me fait quelque chose. Fait qu'il y a comme quelque chose de punk dans le fait de faire des vinyles à perte pour l'amour de l'art. Puis on a besoin de ça. Puis il y a du. Tu sais, moi, je suis content que. En fait, ça fait aussi qu'il y a une trace physique qui existe de cette affaire-là. Tu sais, je veux dire, moi, là, je repars avec ces deux disques-là. Puis il y en a eu combien au total?
Il y en a eu de ces chaque, deux-là, là, mettons. Il y en a eu 12.
Mais tu sais, il y en a eu 12 de chaque, là, tu sais. Fait que je sais pas qui a les 11 autres. Toi, t'en as, j'imagine.
Le Ben. Non, mais moi, j'en ai juste un pour moi. Ben, c'est ça, moi, j'en vendais pas.
Mais c'est ça. Non, mais dans le sens où, après ça, il reste, même s'il y en a 12, fuck, moi, un jour, je vais mourir, puis il y a quelqu'un qui va avoir à gérer des centaines et des centaines de vinyles, puis là-dedans, il va y avoir ça, puis... Je sais pas, j'aime comme me dire qu'il y a une trace physique d'un band indépendant qui a fait de la bonne musique, puis qu'il y a quelqu'un qui a fait « oui, c'est bon », puis...
On va laisser une trace physique. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon.
Ouais. Donc, moi, ça conclut pas mal ça. Puis merci, Antoine, d'être venu.
Ben, merci, c'était le fun.
D'avoir jasé. Puis très hâte, vraiment, au nouvel album. Allez écouter les deux pièces pour de vrai, ça vaut vraiment la peine. Allez les bandcamper, allez les acheter, écoutez-les sur vos téléphones.
C'est acheter un MP3 là.
Peut-être qu'un jour on va sortir un 7 pouces.
Il y a personne qui fait ça, c'est punk.
On va peut-être faire des 7 pouces, puis Antoine il voulait vendre d'un spectacle.
Je dis qu'il y a personne qui fait ça, mais c'est pas vrai. Il y a plein de monde, puis ceux qui le font. C'est important. Ouais.
Olivier Robillard-Lavaux, merci beaucoup.
Un plaisir. Hey, merci, Benoît.
La dernière fois, la plug était pas bonne. Donc là, c'est de 7 à 9 heures sur Ici Musique. Déjeuner en paix.
On va le faire demain matin.
Vous voulez un beau réveil? Olivier est là avec vous. Donc, merci beaucoup. Puis on se revoit lors d'un prochain épisode sous peu. Aussi avec Oli comme invité pour une dernière fois.
De quoi ça?
On sait pas. Il finit temps, il va revenir à un moment donné.
Moi, ça me fait plaisir de jaser musique avec toi.
Oh,
puis avec les artistes.
Quand on a des bons invités, et merci Antoine.
Merci à vous.